I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
Maintenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Bonjour et bienvenue dans Paroles de sorcière. À l'approche des JO 2024 de Paris, il est temps de se pencher sur les sportives qui ont marqué l'histoire du sport. Nous avons voulu mettre en valeur des femmes qui ont marqué l'histoire des Jeux et du sport. Elles ont battu des records, bravé des interdits et bousculé des lignes pour défendre leurs droits et surtout leur nom dans les plus grandes compétitions sportives du monde. Alors, venez découvrir l'incroyable histoire de Marie Patouillet et Wilma Rudolph. Pour information, cet épisode a été enregistré et monté avant le résultat des élections législatives anticipées. Peu importe l'issue, les luttes féministes, antiracistes, LGBT et anti-validisme doivent se poursuivre et se poursuivront. Et maintenant, on vous laisse avec ce nouvel épisode qui revient sur le combat des femmes dans leur quête du droit aux activités sportives et sur les plus belles performances des championnes.
That is men do.
Human rights are women's rights and women's rights are human rights.
Commençons d'abord par un bref retour sur l'histoire des femmes dans le sport. Parce que l'activité physique a fait partie du quotidien de millions de femmes depuis à peu près l'apparition des hommes sur Terre. Néanmoins, l'acceptation de ces pratiques et la mise en scène sous forme de compétition dans l'espace public n'a pas totalement traversé les âges sans accrocs. On pourrait se dire que les Jeux Héréens dans l'Antiquité, qui sont les premiers Jeux destinés aux femmes, sont une excellente idée. Néanmoins, cette compétition en l'honneur de Héra, qui consiste en une course de 160 mètres dont les participantes sont des jeunes femmes, transporte énormément de stéréotypes. Et c'est d'ailleurs bien leur objectif. Cette compétition met en scène des jeunes femmes, comme on l'a dit, qui sont non mariées et souvent considérées comme un peu une tradition prénuptiale. Au sein de la société, elles vont conforter le mythe des jeunes filles sauvageonnes que le mariage va remettre sur le droit chemin et un peu civiliser. On autorise ces femmes à courir parce qu'on leur prête des traits un peu animaux. Et finalement, que oui, elles sont autorisées à faire du sport. Mais à partir du moment où les femmes sont mariées, leur pratique du sport n'est absolument plus faite en public. Cette idée de la Vierge et l'esprit bestial, on le retrouve dans la mythe d'Atalante, mais également celui d'Artémis, qui est certes une déesse, celle de la chasse, mais qui a fait vœu de chasteté. Donc on montre bien que la pratique du sport est incompatible avec le fait d'être une femme véritablement, dans la société grecque. Dans les siècles suivants, peu de faits marquants nous sont revenus, et les femmes ont continué à faire du sport, mais pas dans des compétitions qui ont vraiment su transpercer l'histoire, les siècles, et qui ont surtout été jugées dignes d'être écrites par leurs contemporains. Au XIXe siècle, des personnages comme l'impératrice Sissi remettent la pratique sportive féminine au goût du jour, mais toujours dans un idéal de beauté pour atteindre un certain modèle qu'elle n'arrive pas à avoir autrement qu'avec une pratique obsessionnelle, finalement, du sport. Néanmoins, les femmes se sont évidemment pas arrêtées à ça comme pratique du sport. Et en 1922, à l'initiative d'Alice Millard, les premiers Jeux mondiaux destinés exclusivement aux femmes sont organisés. Ils sont là pour faire un pied de nez à Pierre de Coubertin, qui refusait aux femmes de concourir dans ces Jeux olympiques.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Et maintenant, revenons sur l'histoire de Wilma Rudolph. Wilma Rudolph naît prématurément dans le ghetto noir de Bethléem à Clarksville, aux États-Unis, en 1940. Elle est issue d'une famille modeste et est la 20e enfant d'une fratrie de 22. Son enfance est marquée par les maladies, dont la polio, qui devait la priver de l'usage normal de sa jambe gauche. Vivant dans le sud, en pleine ségrégation, l'hôpital de ville lui est inaccessible. Cependant, les soins procurés par sa famille lui permettent de retirer ses chaussures orthopédiques dès l'âge de 11 ans et de marcher normalement. Elle souhaite alors combler son retard sportif et se lance à fond dans son équipe locale de basket avant d'être réorientée vers la course à pied au lycée. Dès l'âge de 16 ans, elle intègre l'équipe du 4x100 mètres des Jeux Olympiques de Melbourne et décroche sa première médaille de bronze avec ses relais. En 1956, elle rejoint enfin l'Université d'État du Tennessee et donc la fameuse équipe des Tiger Belles qui possède l'un des plus beaux palmarès du sport universitaire américain en athlétisme. Lors de championnats universitaires en juillet 1960, Wilma Rudolph bat le record du monde de 200 mètres et devient alors la première femme à passer sous les 23 secondes avec un temps de 22 secondes 9. Viennent alors les Jeux Olympiques de Rome de 1960. Wilma domine largement les épreuves de sprint et bat tous les records. Sur le 100 mètres, elle bat le record olympique et égale le record du monde avec un temps de 11 secondes 3 en demi-finale. Lors de la finale, elle court en 11 secondes, mais son corps n'est pas homologué du fait d'un vent favorable. Elle devance tout de même toutes ses adversaires avec plus de 3 mètres d'avance. Elle décroche aussi l'or sur le 200 mètres et sur le relais 4x100 mètres. D'ailleurs, l'équipe des Tiger Belles établit même un nouveau record du monde en demi-finale. En finale, Wilma doit combler un retard de 2 mètres sur ses adversaires avec une cheville bandée. Malgré la difficulté, elle rattrape le retard et obtient avec son équipe la médaille d'or sur le 4x100 mètres. Les Jeux de Rome sont particulièrement importants car ce sont les premiers retransmis en direct à la télévision et le monde entier a les yeux rivés sur Wilma Rudolph. Elle a un impact immense sur les clichés de beauté de l'époque. Elle reçoit le surnom de gazelle noire par la presse européenne, qui est charmée par sa beauté, sa grâce et son sourire emblématique. Ils font réagir, d'autant plus qu'elle marque l'histoire en devenant la première femme à empocher un triplé de médailles dorées. Cette année-là, sur 5348 sportifs, seulement 610 sont des femmes. Et la victoire de Wilma enflamme les médias. Il faut se souvenir qu'à cette époque, le sport est encore très imprégné de masculinité. Donc déjà, par son ratio de participants hommes-femmes, mais aussi parce qu'une femme sportive, dans l'inconscient collectif, c'est souvent une femme physiquement masculine. Et la place de la femme dans le milieu sportif est encore très fragile. Elle n'est pas rare à l'époque de lire des propos de la part des journalistes sportifs, jugeant la place d'une femme plutôt à la maison qu'en compétition sportive. Aux yeux de beaucoup, les nageuses américaines blanches et blondes incarnent la seule féminité dans la compétition. Par exemple, la célèbre nageuse américaine Chris Bonsalsa, qui remporte sur les mêmes jeux 3 médailles d'or et 2 d'argent, eut le droit de la part du magazine Life dans un article à le commentaire suivant « Elle a presque autant de médailles que de taches de rousseur » pour vous dire à combien il est important de relier les victoires d'une sportive à son physique. Ainsi, la participation de Wilma et ses victoires sont donc aussi le point de départ d'une nouvelle vision du corps des femmes à la peau noire, allant à l'opposé des corps blancs majoritairement représentés comme l'incarnation de la beauté et de la féminité à l'époque. Wilma Rudolph remporte aussi des victoires en dehors des pistes. Pour commémorer ses 3 titres, elle force le gouverneur du Tennessee ségrégationniste et la ville de Clarksville à organiser un événement ouvert à tous, quelles que soient leurs origines. Si Wilma est une athlète animée par la soif de revanche sur son passé paralysé, elle a encore le goût amer de la discrimination que subissait et subit encore sa communauté. Elle raconte que lorsqu'elle avait 6 ans, elle était déjà marquée par la discrimination. Je cite « Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Les Blancs ont tout le luxe et nous les Noirs avons le sale boulot. » Fin de la citation. En effet, quand en 1960, elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rome, on est encore finalement très loin du célèbre discours de Martin Luther King en 1963 ou des Black Panthers de 1966. Wilma est donc à l'aube d'une révolution. Et chacune de ses victoires permet de hisser la communauté afro-américaine un peu plus haut, tout en suscitant l'espoir. Wilma court dans les pas de Jesse Owens et elle le clame haut et fort. Il est une grande source d'inspiration pour elle, car dans l'ombre des Jeux Olympiques plane toujours cette soif des nations à démontrer leur puissance au travers des meilleures performances sportives. Dans son autobiographie, Wilma Rudolph revient sur la place des femmes noires dans le sport. Je cite. Le fait est que les athlètes féminines noires sont au bas de l'échelle des sports américains. La plupart d'entre elles sont impliquées dans l'athlétisme parce que c'est le seul sport qui leur est encore vraiment ouvert. Combien de golfeuses noires y a-t-il ? Combien de joueuses de tennis noires ? Quand leur carrière sur piste est terminée, peu importe ce qu'elles ont accompli aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de place pour elles. Fin de la citation. Et d'ailleurs, Wilma, en 1961, bat à nouveau un record du monde sur le 100 mètres qu'elle réalise en 11 secondes 2. Et elle met fin à sa carrière en 1962, puisque pour elle, elle avait enfin pris sa revanche sur son corps et décide de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle prend alors un poste d'institutrice avant de devenir responsable du programme d'éducation sportive pour les jeunes filles noires à Chicago. Elle meurt en 1994, 4 mois après avoir été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Mais elle laisse sur l'histoire du sport une marque indélébile qui nous inspire chaque jour pour nous dépasser un peu plus.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Marie Patouillet est une personnalité aussi inspirante que débordante d'énergie. Et parce que c'est pas tous les jours qu'on croise sur la piste une coureuse cycliste, médecin et militante pour les droits LGBTQIA+, bah du coup on a décidé de vous raconter son histoire. La vie de Marie commence comme celle de beaucoup de petits bébés, en naissant avec 2 petites oreilles, 1 petit nez, 2 petits bras, 2 petites jambes. Mais là où elle n'est pas comme la majorité des bébés, c'est que sa cheville et son pied gauche sont mal formés. Chose à part, rappelons que c'est quand même 3 à 4% des nourrissons qui naissent avec une malformation. Donc finalement, le cas de Marie n'est pas à exclure de notre quotidien. Ou plutôt à juger comme quelque chose d'exceptionnel, qui arrive très peu. Parce que le handicap, les handicaps, ils sont présents un peu partout, on ne les voit pas nécessairement, et c'est important de rester sensibilisé à la question. Revenons aux faits. Son handicap ne l'a pas empêchée de se rêver athlète de haut niveau depuis qu'elle est toute petite. Et même si elle savait que le chemin était parsemé d'embûches, elle a toujours été passionnée de sport. Tout en étant parfaitement consciente que sa malformation n'allait qu'aller en s'empirant. Donc tant qu'elle peut, Marie, elle teste tout. Elle parcourt gymnase, montagne et autres stades pour s'essayer au ski, au hand, au surf ou encore au rugby. Mais parce qu'être une sportive affirmée ne lui suffit pas, elle entre à 18 ans à l'école de santé navale de Bordeaux pour se former à la médecine. Malheureusement, c'est à cette époque que sa malformation se dégrade et l'empêche progressivement de courir et de participer aux opérations extérieures. Elle se dirige donc vers la médecine générale et s'essaye à d'autres sports qui lui sont accessibles, le cyclisme, la natation. Son déclic vient après la participation à l'étape du Tour, une compétition amateur où une de ses amies l'avait inscrite. Et c'est à 29 ans qu'elle commence réellement sa carrière de sportive internationale. Et à partir de là, on ne l'arrête plus. Dès 2018, elle se spécialise dans le cyclisme sur piste et participe rapidement à de nombreuses compétitions, réservées aux paraathlètes ou non. Les médailles pleuvent et les titres s'accumulent. Pour vous donner une petite idée de son palmarès, Marie est double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques, quintuple médaillée d'argent aux championnats du monde de paracyclisme, mais également championne de France élite de poursuite par équipe en 2023. Dans cette équipe, elle était la seule parathlète. Mais si Marie est aussi exceptionnelle, ce n'est pas uniquement pour ses médailles et son palmarès époustouflant et son rythme de vie effréné. Elle fait partie des rares athlètes à avoir réussi à briser l'omerta sur le Mexique. Ah. Mais si Marie est aussi exceptionnelle, ce n'est pas uniquement pour son palmarès époustouflant et son rythme de vie effréné entre cabinet et gymnase. Elle fait partie des rares athlètes à avoir réussi à briser l'omerta sur l'homosexualité et plus globalement sur la place des minorités dans le milieu du sport. Ouvertement lesbienne, elle a arboré au championnat du monde des cheveux courts et surtout aux couleurs arc-en-ciel. Son combat n'est donc pas uniquement de sensibiliser au handicap, mais également de faire bouger les lignes, que dire les remparts hétéronormés qui entourent le milieu du sport. Et si ces jeux sont sans doute ses derniers, son engagement dans la lutte contre les sexismes et la LGBTQIA-phobie n'est pas prêt de s'arrêter. Soutenez-la donc aux Jeux paralympiques qui se tiennent du 28 août au 8 septembre, et plus tard dans tous ses engagements. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent la retrouver sur Instagram au nom de Marie Patouillet.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
On vous remercie d'avoir écouté les récits des vies de Wilma Rudolph et Marie Patouillet. On se retrouve le 8 août prochain pour un second épisode revenant sur les femmes et leur place dans le sport avec les différentes luttes menées, passées et présentes, ainsi que les nombreuses initiatives mises en place pour pallier aux inégalités dans le sport. Venez aussi nous suivre sur notre compte Instagram EDEC Inspiring Women, puisque tout au long des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, nous posterons chaque jour l'histoire d'une sportive qui a marqué l'histoire du sport ou d'une sportive actuelle. Merci d'avoir écouté ces histoires et nous vous retrouvons tous les 8 du mois sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts pour un nouvel épisode.
I wish that girls could fail as bad as men do.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
M'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non.
Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.